Donc, vous remarquez que l'évangile comporte un nombre important de textes sur la vie éternelle, le ciel, ce qui se passe après la mort. Ce qui est important, hein, je ne vais pas faire mon homélie dessus, mais je trouve que les prêtres, nous ne parlons pas beaucoup du ciel, on parle beaucoup du bien-être sur la terre, hein, comment être bien, en paix, tout ça. Mais c'est important, notre vie terrestre est un pèlerinage pour nous préparer au ciel, qui est commencé sur la terre par notre baptême. Bon. Mais parfois pas très sensible. Bon. Donc, voilà. Et donc la question, c'est comment nous préparer pour le ciel. Alors, là, on nous donne une clé, qui est cette parabole, qui est en lien avec le texte de la semaine dernière. Donc, si vous n'étiez pas à la messe la semaine dernière, c'est problématique, mais... Les deux fonctionnent ensemble. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'était quoi ? Il y avait un gérant. Il y avait un homme riche qui avait un gérant. Un homme riche, un grand propriétaire, il avait quelqu'un qui gérait. Là, on a la même chose. Il y avait un homme riche. Et à côté de lui, un pauvre, Lazare. Donc les deux, un riche et un autre, les deux ont des destins opposés. L'intendant fait ce qu'il faut pour être accueilli dans la maison de ses amis. Le riche, au contraire, se trouve séparé de Lazare et d'Abraham par un grand abîme infranchissable. L'intendant, la semaine dernière, vit comme s'il n'avait de compte à rendre à personne. Et la même chose, le riche, comme s'il n'avait de compte à rendre à personne, encore moins à Lazare. Donc les deux, dans un premier temps, se conduisent comme des propriétaires. Et c'est la justice de Dieu qui remet à chacun sa place. Et les deux vont chercher une solution. Pourquoi c'est intéressant, vous voyez, d'insister sur une première parabole où l'homme, avec son argent, va se faire des amis qui vont l'accueillir quand il va être renvoyé. Et là, c'est l'inverse, c'est un homme qui, avec son argent, ne profite pas de Lazare pour s'en faire un ami au ciel. Et, bon, pourquoi ? En fait, on veut insister, vous voyez, c'est comme deux silex, enfin deux pierres qui deviennent du feu, pour bien qu'on comprenne en quoi, en fait, nos biens, nos richesses sont au service de la relation. J'aime bien dire que nous avons une propriété privée, mais qui n'est pas une propriété privante. Privante, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas priver les autres. Tu es intendant de tes biens. Et le fait d'être intendant, gérant, nous responsabilise. Du coup, chez soi, on ferme le bouton quand on change de pièce pour pas user l'électricité. Parce que si on n'était pas intendant, gérant, eh bien, on s'en fiche un peu. Vous voyez, ça appartient à tout le monde, ou ça appartient à personne. Donc ça responsabilise la propriété. On possède tous quelque chose, un blouson, un stylo, certains appartements. Bon, une voiture pour d'autres. Bon. Mais être propriétaire, c'est pas dire en fait que je vous êtes l'usager exclusif et que vos biens, alors ça peut être la richesse, ça peut être l'argent, en fait servent à la relation. Et vous avez remarqué que dans la parabole, le riche n'a pas de prénom. Avec le pauvre, on a un, Lazare. Pourquoi il n'a pas de prénom ? Parce que le prénom, ça permet la relation. Comment Marie-Madeleine va être reconnue à la résurrection ? Par son prénom. Jésus dira Marie et elle dira Rabouni. Si je dis Marie, parce qu'elle s'appelle Marie au premier rang, c'est elle qui a fait la première lecture, ben elle dit, tiens, on voit que le Père Paul connaît Marie. Et si je l'interpelle dans la rue, il y aura une relation possible. Si dans la rue je fais, et toi là-bas ? Il y en a 4-5 qui se retournent, mais on ne sait pas qui. Il n'y a pas de relation, c'est compliqué. Le prénom permet la relation. En début d'année, on aime bien... on ne le fait pas ici à 9h, mais si vous venez à 11h, on prend soin de faire un apéro. On pourrait faire un brunch à 9h, mais... à 11h, on fait un apéro, et puis vous allez dans les premières minutes rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour établir une relation, puis vous allez lui demander son prénom. Voilà. En fait, le ciel, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le lieu de la relation. Hein? Ce n'est pas tout, entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Il y a une séparation, on ne peut pas. Entre le sein d'Abraham, le lieu des élus et le riche, il n'y a pas de passage. Mais il n'y avait pas de passage non plus sur la terre. Vous voyez, ce que déclare Abraham, c'est pas nouveau. Il n'y a pas de passage, c'est-à-dire que le riche à Abraham, le riche à Lazare à côté de lui, mais il ne le voit pas. Donc en fait, quand on imagine le ciel, en fait, le ciel c'est quoi? C'est ce lieu de relation où nous serons en relation avec Dieu de manière extrêmement puissante et avec nos frères. Et donc toute notre vie terrestre, elle consiste à se servir de tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, pour aimer Dieu et notre prochain, c'est-à-dire entrer en relation avec Dieu et avec notre prochain. Alors, ce ciel il commence sur la terre avec le baptême, qui fait qu'on est frère. On est frère par le baptême, on s'appelle frère et sœur. Jésus dira à la résurrection à Marie-Madeleine, « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et ça veut dire que, vous voyez, l'Église est déjà ce ciel commencé où les gens de l'extérieur, qui ne sont pas baptisés, doivent percevoir cette fraternité. Alors, vous voyez, peut-être que certains, la messe à 9h du matin, on l'aime bien parce que ça permet parfois de faire de la randonnée l'après-midi ou d'aller voir une personne malade ou bon. Donc mais il faut que dans l'Église, vous voyez, vous trouviez en semaine, vous voyez, peut-être un petit groupe, que nous vivions cette fraternité. Hein? On ne peut pas simplement avoir un rapport avec Jésus et moi. Donc ça fait partie, et ça nous dérange. Parce que pour certains, hein, surtout ceux qui sont plus introvertis, etc. Bon. Donc il y a être avec d'autres et comment nos biens et nos talents sont pour les autres. Et vous avez remarqué que une fois qu'il est donc, alors est-ce qu'il est en enfer? Pas forcément, le riche. Peut-être qu'il est plutôt au purgatoire puisqu'il se soucie de ses personnes, c'est sa famille. Mais vous remarquez que au purgatoire, donc ce riche n'a toujours pas de contrition par rapport à Lazare. C'est-à-dire qu'il est toujours pas en relation avec Lazare. Il veut utiliser Lazare. Il dit alors, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de la torture. Il ne demande pas de pardon à Lazare, hein. Ça n'intéresse pas. Alors c'est intéressant parce que ce riche, on nous dit qu'il se revêtait de pourpre et de lin fin. Et alors on sait historiquement que c'est le vêtement du grand prêtre. Le grand prêtre à l'époque, c'est Anne, et il a 5 fils. Donc c'est intéressant, vous voyez, j'ai 5 frères. On se demande si c'est pas finalement la religion de l'époque, hein, comme dit la première lecture, qui est pointée, et qui fait que, en fait, vous êtes idolâtre, c'est-à-dire que vous avez un rapport à Dieu extrêmement fermé, une sorte de culte, qui ne comprend pas que aimer Dieu, c'est aimer son frère et que les deux font un seul commandement. Voilà. Et alors le Seigneur dit, mais non, mais tu sais, on pourra bien envoyer quelqu'un ressuscité d'entre les morts. S'il ne croit pas Moïse et les prophètes, il ne croira pas non plus. Peut-être, du coup, il a un lien avec un passage de l'évangile de Jean où il y a un certain Lazare qui ressuscite. Ça vous rappelle quelque chose? Chapitre 11. Lazare ressuscite. Et les gens autour, la caste sacerdotale, les pharisiens, disent « On va mettre à mort Jésus. » Au moment de la résurrection, de la réanimation de Lazare, on va mettre à mort Jésus. Donc c'est là où il faut faire écouter, vous voyez, cet évangile de Luc, un peu avec saint Jean derrière. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, ils ont la parole. Tu peux faire ressusciter quelqu'un qui s'appelle Lazare comme par hasard, ça ne fait pas bouger les gens. Au contraire, ils deviennent plus durs, ils s'enferment et ils veulent me mettre à mort, dit Jésus. C'est intéressant, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de... La conversion ne viendra pas, comment dire, d'une obligation extérieure. On ne va pas nous forcer à croire. Vous avez la parole de Dieu, et vous allez l'ouvrir quand vous voulez. Vous allez la fermer quand vous voulez. Vous allez la creuser de la manière dont vous souhaitez, à la profondeur dont vous avez le désir. Mais vous voyez, une apparition devant moi, c'est pourquoi pas, mais c'est très obligeant. Je suis obligé de croire. Tu t'imposes à moi, tu m'apparais. Bon, en même temps, même dans une apparition, on s'aperçoit que, en fait, notre liberté, elle nous est rendue. Même Bernadette de Lourdes se posait la question si elle avait vu la Vierge, à un moment donné. Ben, que vous entrez dans la nuit de la foi, vous ne savez plus trop. Bon. Mais non, le Seigneur veut une relation libre. Je ne te contrains pas de m'aimer. Je te propose ma parole, et elle est à distance, tu la prends, voilà, fais ton chemin. En tout cas, je te donne tous les moyens pour pouvoir me connaître. Voilà, donc que le Seigneur nous donne ce désir du ciel, voilà, qu'on revienne vers l'essentiel plutôt que nos soucis du quotidien, qu'on essaie de profiter de tout. Tout peut nous conduire au ciel, les joies comme les épreuves, puisque la croix est l'arbre de vie qui nous conduit au ciel, et puis qu'on demande à revoir vraiment nos talents, nos richesses, en vérifiant qu'elles sont bien au service des hommes.